الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fais en sorte que je puisse voir les minutes du cours. Ça. Donc on reste dans notre discours à propos de Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ibadah, c'est-à-dire le fait de vouer un culte exclusif à Allah, ou le fait de considérer et de croire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Et on avait montré les différentes preuves coraniques à ce sujet. Et les preuves, elles sont aussi contenues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notamment le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari est rapporté de Mu'ad. Donc Mu'ad dit radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'ad ibn Jabal, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est leur droit sur Allah? Et Mu'ad a dit Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. قال حقهم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Bah en fait ça sert à rien d'enregistrer les frères parce que c'est enregistré. Là ça sera enregistré, ça s'enregistre. Donc là c'est l'enregistrement officiel entre guillemets. Parce qu'on sait jamais pour si je dois le réécouter. Après, il a dit, وَحَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Donc il a dit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc ça, c'est le tawhid dont on est en train de parler, tawhid al-uluhiyya. Et le droit des créatures sur Allah, c'est qu'il ne les punisse pas si elles font ça. Donc regardez comme ce hadith, il nous montre que ce tawhid, c'est le droit d'Allah. Donc c'est le plus grand des droits envers les créatures. Et quand il a dit le droit des créatures sur Allah, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le même, au même stade que le droit d'Allah sur ses créatures. C'est comme quand Allah il dit par exemple, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. C'est-à-dire Allah s'est prescrit à lui-même ar-rahma, la miséricorde. Ou quand Allah dit dans le hadith al-Qudsi, inni harramtu al-dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. C'est-à-dire, il n'y a personne qui n'a un droit sur Allah ou qui impose quoi que ce soit à Allah. Mais c'est Allah lui-même qui a déclaré par miséricorde que notre droit, c'est qu'il ne nous punisse pas si on fait ce tawhid, si on pratique ce tawhid. Donc ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث رواه البخاري. Ensuite le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas qui est dans Sahih al-Bukhari où il a dit رضي الله عنهما lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé Mu'ad au Yémen. Ça c'était en l'an 10, donc juste un peu avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal comme prêcheur et aussi comme juge pour les gens du Yémen et pour les musulmans du Yémen. Donc là, on observe déjà le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa, dans le fait qu'il n'envoyait pas des groupes ignorants pour enseigner à d'autres ignorants. Mais il envoyait des savants, même s'il devait en avoir qu'un seul, il envoie des gens qui ont la science et qui portent du savoir. Puisque Mu'ad, il a différents affaires qui ont été rapportés sur lui, notamment le affaire qui dit que il devancera les ulama d'une distance équivalente à 500 ans de voyage au jour du jugement. Et l'autre hadith qui dit A'rafu an-nas fi ummati bil halal wal haram, Mu'ad ibn Jabal. Un autre hadith, donc quant à l'authenticité de ces hadiths, c'est pour ça que j'ai dit il a été rapporté. Donc il reste à vérifier ces deux hadiths. L'autre hadith qui dit que la personne la plus savante dans ma communauté à propos du licite et de l'illicite, c'est Mu'ad ibn Jabal. Donc c'est cet homme-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour envoyer pour faire la da'wa au Yémen. Et il lui a dit, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. C'est comme si là, il lui donne une sorte de préparation. Puisque le Yémen, la situation des gens du Yémen, elle n'était pas comme la situation des gens de la Mecque et du Hizaz, qui étaient des adorateurs d'idoles. Et qui n'avaient pas une religion dans le sens, ils n'étaient ni chrétiens ni juifs. Alors que les gens du Yémen, au contraire, c'était des gens du livre. Donc quand il leur a dit, tu vas vers des gens du livre, c'est comme si quelque part, il montre que dans la da'wa, tu dois savoir à qui tu t'adresses pour être préparé au dialogue et être préparé à présenter ta da'wa de la meilleure façon selon la personne à qui tu t'adresses. Donc en tout cas, regardez, ce qui est voulu dans le hadith ici, c'est que la première chose, il lui a bien dit. Donc je finis le hadith. Lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la première chose à laquelle tu les appelles soit أني وحيد الله. Donc dans une autre version il a dit شهادة أن لا إله إلا الله. L'attestation de لا إله إلا الله. Dans une autre version il a dit أني وحيد الله. C'est-à-dire l'autre un rapporteur a rapporté le hadith en disant l'attestation de لا إله إلا الله. Un autre rapporteur a dit أني وحيد الله. Si on traduit comme ça littéralement qu'ils unifient Allah, ou plutôt on va dire qu'ils croient qu'Allah est unique dans son adoration, ou qu'ils adorent Allah uniquement. C'est le verbe qui est tiré du tawhid. Ce qui prouve qu'à l'époque des salafs, puisque ces rapporteurs de hadith sont dans les générations des salafs, ben le tawhid, c'est un synonyme de la shahada de la ilaha illallah. Et ce qui est tiré du hadith par rapport à notre sujet, c'est qu'il a bien mis ça à la tête de la da'wa. Il lui a bien dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit, il n'a pas parlé de tawhid al-rububiyya, ni d'autres choses, mais du tawhid dans l'adoration. Après, il lui a dit, s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 salats, chaque jour et nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les que Allah leur a imposé une aumône qui est retirée de leurs pauvres pour être redistribuée, qui est retirée de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres, c'est-à-dire la zakat. Donc, il lui a enseigné at-tadarruj. C'est-à-dire le fait d'aller étape par étape et aussi d'aller du plus important au moins important. Donc on commence par tawhid et une fois que ça c'est compris, et regardez comme ici dans cette version du hadith il a dit idha arafu dhalik, lorsqu'ils ont connu cela. Donc c'est pas simplement le fait qu'il l'ait dit sans en avoir connaissance, mais il doit lui-même s'en assurer qu'ils ont connu cela avant de leur imposer la salat. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Et ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui meurt alors qu'il invoque avec Allah un égal, il entre en enfer. يدعو ici on peut le traduire par invoquer, du'a qui est connu, du'a al-mas'ala. Mais on peut très bien le traduire par adorer. Parce que dua en arabe, ça implique dua al-mas'ala comme dua al-ibada. Ça a deux sens. Ça peut être la prière, fait de demander quelque chose, et ça peut vouloir dire l'adoration. Donc ici, on peut traduire celui qui meurt alors qu'il adore avec Allah un égal, entre en enfer. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. Et le hadith de Jabir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui associe rien, entre au paradis. Et celui qui le rencontre alors qu'il lui associe quoi que ce soit, entre en enfer. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Donc ce hadith, il nous dit, celui qui meurt alors qu'il associe à Allah, il rentre en enfer. Et celui qui meurt alors qu'il ne lui associe rien, il rentre au paradis. Quelqu'un, il peut me dire, il peut très bien ne pas associer à Allah, pourtant il fait des péchés, des grands péchés. On peut, en fait, ce hadith, on comprend dans le sens. Celui qui meurt en tant que monothéiste, muwahhid, même s'il passe en enfer une étape pour se purifier de ses péchés, parce qu'Allah a choisi de le punir pour ses grands péchés, ou pour un manque à des obligations qu'il n'a pas accomplies, mais son destin final, il est au paradis, parce que c'est un muwahhid. Alors que celui qui est associé à Allah et qui est kafir, qui a atteint le stade du shirk al-akbar, eh ben celui-là, il rentre en enfer et il y reste éternellement. Donc c'est comme ça qu'on comprend ce hadith. Sinon, on peut le comprendre d'une autre façon. C'est-à-dire, celui qui meurt alors qu'il n'associe rien à Allah, c'est-à-dire ni le shirk al-akbar, qu'il ferait sortir de l'islam, ni non plus un shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme ou l'associationnisme mineur. C'est-à-dire une personne dont le tawhid n'a été entaché ni de shirk akbar ni de shirk asghar. Pas d'ostentation, pas de recherche de la réputation dans ses adorations, pas de recherche des choses d'ici-bas par la pratique de la religion, pas de sermon par autre qu'Allah, etc., etc. Et celui forcément qui a atteint ce stade de réussir à se protéger de tout shirk, forcément il va aussi se protéger des grands péchés. Et c'est quelqu'un qui généralement va accomplir ses obligations. Donc c'est quelqu'un qui rentre au paradis directement. Donc c'est les deux façons de comprendre ce hadith. Soit on dit, celui qui meurt et qui n'associe rien à Allah, c'est-à-dire il fait pas de shirk akbar, rentre au paradis, c'est-à-dire à la fin de toute façon il rentre au paradis. Soit il est un mu'min complet, il rentre en paradis directement, ou soit c'est quelqu'un qui n'a pas atteint l'iman al-kamil et il mérite d'être châtié. Allah choisit de le châtier et donc il passe d'abord en enfer. Mais de toute façon, s'il est muslim et muwahhid, la fin c'est qu'il sera au paradis. Ou alors on peut le comprendre dans le sens, il meurt et il n'a rien associé, ni shirk asghar, ni shirk akbar. Donc une telle personne, c'est forcément une personne qui a complété son tawhid et qui a complété son iman. Et ce genre de personne, elle rentre directement au paradis. Donc ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Après, ici, dans le livre, ils ont mis un chapitre pour montrer l'importance de ce tawhid et qu'il est la base du message de tous les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce tawhid, c'est la plus grande des bases, à l'itlaq, c'est-à-dire de façon absolue, sans discussion. Il n'est pas comparable à autre chose. Ce tawhid qui est le fait d'adorer Allah seul et de rien lui associer, c'est la base de la religion. Et c'est sur ça qu'est fondée toute la religion. Et c'est à ça qu'ont appelé en premier tous les messagers d'Allah. Et c'était la pulpe de tous leurs messages. Comme on a cité les versets hier, quand Allah dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tawhid. » Et ça c'est le tawhid. Et c'est la ilaha illallah. Adorez Allah, mais cette adoration ne suffit pas tant qu'elle n'est pas accompagnée du fait de renier tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Donc c'est à la fois de la foi et de la mécréance. De la foi en Allah et de la mécréance aux idoles. C'est ça la ilaha illallah. De l'affirmation et de la négation. Et l'autre verset qui dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a de divinité que moi, ilah, il n'y a de ilah, c'est-à-dire de divinité qu'on adore, que moi, alors adorez-moi. Et là, et donc, il y a toute une suite de versets, les versets qui montrent et qui racontent les messages des différents prophètes. Et encore une fois, je répète que le fait qu'il y ait des histoires dans le Coran, que ce soit les histoires des anciens prophètes, ou alors les histoires des enfants d'Israël ou des chrétiens, et qui nous montrent leur blâme dans le Coran, c'est pas juste des histoires pour être des histoires, c'est-à-dire pour se les raconter et pour faire dormir les enfants le soir. C'est pas ça qui est voulu dans ces histoires. Ce qui est voulu dans ces histoires, c'est d'en tirer des leçons. Donc lorsqu'Allah nous montre, nous parle des prophètes, on en retire le minhaj dans la da'wah. C'est-à-dire comment ils ont fait da'wah à leur peuple. Qu'est-ce qu'ils ont subi dans la da'wah et comment ils ont patienté. Et notamment, on n'en retire que la première chose à laquelle ils appelaient, c'était at-tawhid. Comme les histoires des gens du livre, on en retire les erreurs dans lesquelles on ne doit pas tomber. Comme le fait de changer la religion, le fait de suivre les hommes dans ce qui contredit le livre et la sunna, etc., etc. Parmi ces versets, donc, quand Allah nous parle du prophète Hud, qui est un des prophètes arabes, il dit « وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ » C'est-à-dire, au peuple de Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Donc tel était son message à ce prophète qui était un prophète arabe. وَقَالَ تَعَالَى وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et l'autre verset qui dit, à propos de Salih, qui était un prophète arabe envoyé aux gens de Thamoud. Au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. La même chose que Hud. Et l'autre verset, qui est semblable et qui dit, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. Et à Madian, nous avons envoyé Shu'aib, un autre prophète arabe. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Donc tel était le message de tous ces prophètes dont Allah nous a donné l'exemple dans le Coran. Ou alors on peut citer aussi quand Ya'qub a dit avant de mourir, quand Allah nous dit Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. C'est-à-dire ici Allah nous raconte que Ishaq, que Ya'qub pardon, avant de mourir, il a dit à ses 12 fils qui sont les ancêtres des enfants d'Israël, puisque Israël, c'est Ya'qub. Il leur a dit, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Et il leur a dit, nous allons adorer le Dieu de nos pères, qui sont Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Donc c'est le Tawhid, Tawhid al-Ibad. Et d'autres versets encore. Ou alors aussi, ils auraient pu citer ici, ou peut-être ils vont le faire par la suite, c'est le verset où Allah nous raconte le dialogue entre Youssouf et son compagnon de la prison, quand il leur a dit « أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » Il leur a dit « Est-ce que des dieux différents sont meilleurs ou Allah l'unique ?» C'est-à-dire aussi, il les a invités à ce tawhid, à adorer Allah seul. Donc tout ça nous prouve que c'était le message de tous les prophètes. Ensuite, ils ont mis ici une série de versets qui montrent que ce tawhid, en plus d'être le message de tous les prophètes, il était le sujet de dispute entre les prophètes et leur peuple. Ce qui nous montre que le sujet de dispute entre les prophètes et leur peuple, c'était pas de croire en Dieu, comme on l'a expliqué hier. On l'a bien expliqué que les peuples auxquels les prophètes étaient envoyés croyaient en, entre guillemets, comme on dit ici, croire en Dieu. C'est-à-dire croire en un créateur qui a créé ce monde. Ça, c'était déjà admis chez eux. La dispute entre eux et les prophètes, et ce qui leur a fait refuser le message des prophètes, et ce qui nous aide à comprendre le message des prophètes, c'est qu'ils ne voulaient pas réserver leur culte à Allah. Ils croyaient en Allah, mais ils refusaient de délaisser l'adoration de leurs autres divinités. Comme il s'est cité ici, à propos du peuple de Nuh, donc qui est le premier peuple à avoir reçu un messager, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, où Ibn Abbas, radiallahu anhuma, explique que la première fois que le shirk est apparu sur terre, c'était à l'époque de Nuh. Et que les cinq divinités qu'on va citer ici dans le verset étaient cinq hommes pieux du peuple de Nuh, donc qui étaient des gens sur le tawhid, puisque le shirk n'était pas encore apparu sur la terre. Mais, quand ils sont morts, ils ont fait des statues à leur effigie. Au début, c'était pour se rappeler d'eux. C'était pas dans le but de les adorer. Mais c'était quand même une exagération vis-à-vis de ces morts. Et les générations sont passées, comme dit Ibn Abbas, la science a été oubliée jusqu'à ce qu'ils les adorent. Jusqu'à ce que le diable leur dise, vos ancêtres n'ont fait ces effigies que pour que vous les adoriez. Et c'est ainsi que le shirk a commencé. Donc le shirk, il a commencé par l'exagération à propos des hommes pieux et par le fait d'adorer des hommes pieux qui sont enterrés. Et là, il y a une réponse aux gens du soufisme et aux gens qui adorent et qui pratiquent une religion qu'ils appellent l'islam et qui n'est que des traditions, des cultes hérités de leurs machaïr et de leurs ancêtres. Lorsqu'ils adorent des awliya, comme ils disent, ou le maoula un tel, et ils disent que ça c'est pas du shirk, parce que les polythéistes qu'Allah a blâmés dans le Coran, eux ils adoraient des statues, ils adoraient des pierres, des arbres, des djinns, ou le soleil et la lune. Alors que nous, on voue ces actes de culte à des hommes pieux, on n'est pas comparable à eux. Et ça c'est faux. Puisque comme vous le voyez, le premier shirk qui a été blâmé, et pour lequel un messager est descendu, c'est nullement une adoration de statue, mais c'est de l'adoration des hommes pieux. Parce que ils restaient à côté de ces statues et ils ont fini par les adorer. Mais ce qu'ils adoraient, c'était pas la statue en elle-même. C'était l'homme pieux qui était enterré sous cette statue. Parce qu'ils se rappelaient de ces hommes pieux. Donc l'exagération dans les hommes pieux les a fait tomber dans ce polythéisme. Et ça, entre parenthèses, donc ça c'est bon à savoir, c'est complètement contraire à ce que les Occidentaux ils veulent faire avaler à l'humanité. Et ça, ça fait partie de leur plan pour faire oublier la religion aux êtres humains. Parce que cette religion, elle rend les êtres humains esclaves d'Allah. Et eux, ils veulent rendre les êtres humains esclaves d'autre chose, que ce soit l'argent ou etc. Que l'être humain, il n'est plus quelque chose pour lequel il soit esclave, mais qu'il soit libre. Alors qu'en vérité, il ne sera pas libre, puisqu'il sera esclave de ses propres passions, esclave de l'argent, esclave des philosophies. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, au contraire, les êtres humains, qui au début ne savaient pas parler, alors que nous on sait qu'Adam, il a reçu le langage de la part d'Allah, donc regardez le contraire, regardez la différence énorme entre les deux doctrines. Ils disent que l'être humain, au départ, il était polythéiste. C'est-à-dire les hommes des cavernes, qui étaient humiliés, quand on regarde comment ils nous présentent nos ancêtres, c'est presque comme des animaux, humiliés, et comme s'ils avaient rien à faire sur terre, puisque là où ils sont, à chaque fois ils meurent et ils ont des difficultés à vivre. Alors que c'est le contraire de ce que le Coran nous enseigne, puisque le Coran nous enseigne que cette terre, elle a été créée pour l'être humain. Et qu'Allah, il a facilité à l'être humain la vie sur terre, puisqu'il a tout sorti pour que l'être humain puisse manger, se vêtir, habiter, etc. Encore une fois, regardez la distance entre les deux doctrines. Et donc que ces hommes, qui pour eux, nos ancêtres, c'était des gens ignorants, qui ne savaient pas parler, et encore moins écrire. Et donc lorsqu'ils ont vu la pluie tomber, et lorsqu'ils ont vu l'orage éclater, ils se sont dit, comme ils n'avaient pas encore le savoir qu'on a maintenant, parce qu'on sait que la pluie, elle se fait avec la condensation, et que l'orage, c'est par rapport à l'électricité, et tout ce blabla, comme ils ne savaient pas tout ça, ils ont dû s'inventer des dieux qui faisaient ces effets naturels. Un dieu qui fait tomber la pluie, un dieu qui fait l'orage, un dieu qui fait pousser les plantes, etc. Donc dans leur doctrine à eux, les êtres humains étaient au départ polythéistes. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien nous rappeler la civilisation grecque, la civilisation égyptienne et la civilisation des Aztèques, etc., d'Amérique du Sud. Il n'y a pas de mal à ce qu'on parle de tout ça, parce que des fois, il faut faire le rapport entre ce qu'on étudie et les mécréants chez lesquels on vit, pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, pour qu'après, on sache leur parler, et on sache ce qu'ils ont dans la tête, et on sache à quoi ils veulent nous appeler. Donc pourquoi à chaque fois ils nous parlent de ces civilisations-là? Parce que soi-disant, c'était des civilisations polythéistes. Les Grecs, ils avaient plein de dieux. Un dieu qui fait telle chose, l'autre il fait les végétations, l'autre il fait la pluie, l'autre il s'occupe de la mer. Et c'est plus tard dans le Moyen-Orient que est arrivée l'idée d'un seul Dieu. Et de là seraient nés les trois grands monothéismes, qui sont le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam. Quand ils vous disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? C'est que le monothéisme, en vérité, c'est quelque chose de... C'est-à-dire déjà, c'est une finalité à laquelle les êtres humains y sont arrivés, alors qu'au départ, ils étaient polythéistes. Et que le monothéisme, c'est simplement le fait de croire qu'il y a un seul Dieu qui gère l'univers, puisque tous ces peuples dont ils nous parlent en tant que monothéistes, pour nous, c'est des mouchriquim, puisqu'ils adorent autre qu'Allah. Parmi les juifs, les chrétiens et autres, ou les gens de Babylone, etc. Et aussi, ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est que, ah ben, après tout, le polythéisme, c'est qu'une doctrine parmi les autres, qui est passée dans les êtres humains, et qui appartient à une région particulière. Donc, si toi, t'es noir, ou maghrébin, ou indien, ou blanc d'Europe, t'as rien à voir avec ce polythéisme. Celui qui a peut-être à voir avec ce polythéisme, ben, c'est l'arabe, le juif, et ceux qui sont peut-être certains perses, c'est-à-dire tout ce bassin-là, le Moyen-Orient, l'Irak, la péninsule arabique, le Chem, c'est-à-dire la Syrie, etc. Ces gens-là, peut-être, s'ils nous parlent de monothéisme, on peut dire, c'est vrai, vous avez un rapport avec. Mais nous, les Blancs, ou nous, les Noirs, ou nous, les Indiens, ou nous, les Chinois, qu'est-ce qu'on a à voir avec votre polythéisme? Pardon, avec votre monothéisme. Vous avez compris le mécanisme. Donc, regardez dans leur doctrine pour répéter, les hommes, ils ne savaient ni parler, ni écrire. Donc, ils se sont inventés plein de dieux dans Ar-Rububiyya, c'est-à-dire plein de dieux qui gèrent l'univers. Et par la suite, avec l'évolution des pensées, dans une région précise du globe, est arrivée cette idée qu'il y avait un seul Dieu qui contrôlait l'univers. Sans forcément qu'on n'adore que ce Dieu, puisque c'est les Juifs et les chrétiens, ils ont adoré encore d'autres divinités, mais ils croyaient en un Dieu suprême. Donc vous autres qui n'êtes pas de cette région, vous n'avez rien à voir, ça n'a rien à voir avec vos ancêtres, et vos ancêtres, ils étaient, soit animistes. Il y a différents mots, vaudou, animiste, comment ils appellent ça ici, là, les Celtes, avec leurs druides, etc., shintoïstes, etc. Et ils vous sortent plein d'autres religions. Pourquoi? C'est pour créer dans l'être humain une identité qui l'écarte du monothéisme. Et à ce moment-là, l'être humain, il se sent loin de cette doctrine. Et il se dit finalement, cette doctrine qui est de croire en Dieu, c'est pas fondé dans l'être humain. C'est qu'un truc historique. Et j'ai rien à voir vis-à-vis de mes racines, j'ai rien à voir avec cette doctrine. Alors que l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout l'inverse. C'est que Adam, premièrement, il était éclairé. C'était pas un singe. C'était un homme à qui Allah a enseigné le nom de chaque chose. Et devant qui il a ordonné aux anges de se prosterner. Et il adorait Allah seul, sans rien lui associer, et toute sa descendance. Donc les gens, ils étaient au départ monothéistes dans Ar-Rububiyya et dans l'Uluhiyya. Et après, à cause des événements que Ibn Abbas nous a racontés dans le peuple de Nour, est arrivé le shirk pour lequel Allah a envoyé les messagers, qui est le shirk dans l'Uluhiyya, toujours pas dans Ar-Rububiyya. Et si on regarde en vérité les civilisations, le shirk fi Ar-Rububiyya, il est assez étranger. Puisque si tu regardes même toutes les autres religions, dans ce qu'on retrouve comme trace des autres religions, que ce soit des religions d'Afrique noire, des religions d'Amérique, quand on dit d'Amérique, j'aime pas le dire les Indiens, parce que les Indiens qui se battaient contre les cowboys, ils ont rien d'Indien, c'est eux les Américains qui auraient été massacrés par la suite. Eux, ils croyaient en un Dieu suprême. En Afrique, c'est la même chose. En Inde, c'est la même chose. Même dans les religions hindoues, qui ont des centaines de divinités, ils croient en un Dieu suprême. Même dans les religions chinoises, on retrouve toujours le principe du un, c'est-à-dire le un suprême. Donc, le fait de nous dire que le monothéisme, c'est quelque chose d'étrange, et que la plupart de l'humanité, ils y croyaient pas, ça, c'est des sornettes. C'est des mensonges par lesquels ils veulent écarter l'être humain du tawhid, écarter l'être humain de la sainte nature sur laquelle Allah il l'a créé. Et ça, il faut être éveillé à ça, parce qu'on vit dans leur environnement, et nous-mêmes et nos enfants subissent cette da'wah, où on leur dit que, après tout, l'être humain, c'est un animal comme un autre, et le monothéisme, il a jamais connu, et le peu qu'il a connu, ces gens qui l'ont connu, t'as rien à voir avec eux. Alors que l'islam, il nous montre que c'est tout l'inverse, puisque chaque prophète, qu'il soit dans quelque continent que ce soit, puisque le hadith est bien général, fi kulli ummatin, ça veut dire quelle que soit son origine, et quel que soit l'endroit et l'époque à laquelle il vivait. C'est-à-dire, il faut enlever cette mentalité que beaucoup ont en croyant que les prophètes c'était que chez les enfants d'Israël. Ça, c'est faux. Les enfants d'Israël, certes, dans le Coran, la plupart des prophètes dont le Coran parle sont des enfants d'Israël ou des Arabes. Mais chaque peuple a reçu un prophète. Et donc chaque peuple croyait en Allah et a reçu un prophète qui l'appelait à vouer leur culte à Allah seul. Donc regardez la distance qu'il y a entre les deux doctrines. La doctrine de l'islam qui honore l'être humain et qui l'appelle à se soumettre à son créateur, et par ça il sera libéré de toutes les autres sortes d'esclavage. Puisque s'il se soumet pas à Allah, il sera esclave du reste des créatures, de ses passions, etc. Et l'autre doctrine qui te classe l'être humain comme un animal parmi les autres et qui doit être libre de toute croyance et libre de toute soumission, et qui sera au final soumis à ses passions, à des philosophies incertaines qui sont fondées sur rien du tout. Donc maintenant, à chacun de choisir parmi les êtres humains, est-ce qu'il veut être cet être humain-là ou cet être humain-là? Est-ce qu'il veut être le soumis à Allah qui suit une voie claire, ou est-ce qu'il veut être celui qui sera perdu, soumis à ses passions et l'objet des gens qui le dirigent? Donc, à propos du peuple de Nour, pour revenir à notre sujet, les versets disent وَقَالُوا, c'est-à-dire le peuple de Nour, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. En fait, là c'est Nour. Allah nous cite Nour. Lorsqu'il s'est adressé à Allah, il a dit à propos de son peuple, ils ont dit: ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad, et Suwa', et Yarouth, et Ya'uq, et Nasr. Ces cinq-là, c'était eux les cinq hommes pieux dont Ibn Abbas nous a parlé. Ces cinq hommes pieux qu'ils ont fini par adorer. Donc, quelle était leur dispute avec Nour? C'était aucunement de dire, ne croyez pas en Allah comme étant le créateur. C'était, ne délaissez pas ces divinités que vous adorez. Donc rien à voir avec la croyance au Créateur. Puisque justement, ces divinités, ils les considéraient parce qu'elles avaient été pieuses envers Allah, justement. وقال عن قوم هود عليه السلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Et dans un autre verset, Allah nous parle à propos de Houd avec son peuple. Et Allah nous dit, ils lui ont dit, c'est-à-dire à Houd, est-ce que tu nous es venu pour nous dévier de nos divinités? Et ayez bien à l'esprit que quand je traduis divinité, c'est Aliha, c'est-à-dire la chose qu'on adore. Donc, es-tu venu pour nous dévier, de ces choses qu'on adore? Ramène-nous donc ce que tu nous promets, c'est-à-dire le châtiment, si tu es véridique. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Et toujours à propos du peuple de Houd, Allah dit, ils ont dit, ô Houd, tu n'es pas venu vers nous avec une preuve, et nous n'allons pas délaisser nos divinités sur ta parole, et nous ne te croyons pas, et nous n'avons pas foi en toi. وقال عن قوم صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Et à propos du peuple de Salih, donc Thamoud, il a dit, ils ont dit, ô Salih, auparavant tu étais quelqu'un d'espéré chez nous, c'est-à-dire nous avions de l'espoir en toi. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos pères adoraient? Certes, nous sommes dans le doute vis-à-vis de ce vers quoi tu nous appelles. Donc regardez comme il disait, est-ce que tu, en blâmant, c'est-à-dire en reniant son message, C'est pas une simple question. C'est une question qui veut dire que il renie son message. Est-ce que tu nous ordonnes de délaisser et de ne pas adorer ce que nos pères adoraient? Ce qui prouve que l'objet de dispute entre Salih et son peuple, c'était le fait d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration d'autres. Donc, tawhid al-ibad. وقال عن قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Et le peuple de Madian, lorsqu'ils ont dit à Shu'aib, ô Shu'aib, est-ce que ta prière t'ordonne de délaisser ce que nos pères adoraient et t'ordonne, et nous, ou plutôt nous empêche de faire ce que nous voulons de notre argent, parce que c'était des gens qui transgressaient dans l'argent, est-ce que c'est toi, certes, Al-Halim Al-Rashid, c'est-à-dire il se moque de lui, est-ce que c'est toi, Al-Halim Al-Rashid, qui est bien guidé? Donc regardez comme ils lui ont reproché le fait qu'ils voulaient d'eux qu'ils délaissent l'adoration des divinités que leur père adorait. وقال عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Et enfin le peuple de Quraysh, donc les mécréants à qui a eu affaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les cite en disant, ils se sont étonnés que leur soit venu un avertisseur parmi eux. Et les mécréants ont dit, voici un sorcier menteur, c'est-à-dire Muhammad. A-t-il fait des divinités une divinité unique? Donc divinité dans le sens, ce qu'on adore. A-t-il réduit toutes les divinités qu'on adore à une seule divinité qu'on doit adorer? Voilà là une chose étonnante. Et Al-Mala, c'est-à-dire les haut placés d'entre eux, se sont dit, Isbiru ala aliyatikum, patientez avec vos divinités, c'est-à-dire restez assidus à l'adoration de vos divinités. Voici une chose qui est voulue. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, ce n'est qu'une invention. Donc regardez comme ces versets nous montrent qu'est-ce qu'ils ont méconnu et qu'est-ce qu'ils ont refusé dans le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas tawhid al-rububiyya, c'est pas croire au créateur, mais c'est tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire vouer et reconnaître qu'Allah est le seul à qui on doit vouer notre religion. وَقَالَ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Et ces versets qui disent dans la sourate Al-Furqan, lorsqu'ils te voient, ils se moquent de toi et ils disent, est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager? Il a bien failli nous égarer de nos divinités. C'est là le morceau du verset qui nous intéresse. Il a bien failli nous égarer de nos divinités si seulement nous n'avons pas patienté avec elles. Et bientôt ils sauront, lorsque leur viendra le châtiment, qui est plus égaré. Et aussi, ça c'est dans le Coran, et il y a aussi des textes de la Sunna qui montrent ça, donc comme le hadith qui dit, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc ce hadith qui est dans les deux sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité, ou plutôt qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la salat, et qu'ils payent la zakat. Lorsqu'ils auront fait cela, ils auront protégé de moi leur sang et leurs biens, sauf de bon droit, c'est-à-dire sauf de haqq l'islam, c'est-à-dire si l'islam me donne un droit vis-à-vis de leur sang et de leurs biens, et leur compte est à Allah. C'est-à-dire leur compte, s'ils font semblant d'être musulmans, ça c'est entre eux et Allah, mais leur islam apparent est accepté. Ce qui montre que La mission du prophète, c'était jusqu'à ce que les gens fassent cette shahada. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Et l'autre hadith sahih où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le même sens, celui qui dit la ilaha illallah et qui renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et son bien nous sont interdits et son compte est à Allah. Donc regardez bien comme il a dit, il a mis ici une condition quand il a dit celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est pas la simple parole qui est voulue, même si par la simple parole la personne son islam elle est acceptée, mais pour qu'elle soit authentiquement musulmane, cette personne, il faut qu'avec l'attestation de la ilaha illallah elle agisse en conséquence, c'est-à-dire qu'elle ne contredise pas la ilaha illallah dans ses actes en adorant autre qu'Allah. C'est pour ça qu'il a bien dit celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si elle venait à dire la ilaha illallah tout en adorant autre qu'Allah, son islam ne serait pas accepté, puisque ça nous montrerait que la ilaha illallah elle l'a dit sans science et sans conviction, puisqu'elle le contredit dans ses actes. Ensuite, dans le chapitre suivant, il y a un chapitre sur qui dit wujub ifradillah bil ibada wa tahtahu matalib. C'est-à-dire sur le chapitre qui parle de l'obligation d'adorer Allah seul. Donc là, il va parler de la signification de al-ibada. Donc il dit al-ibada tu fil lugha, puisque quand on a dit al-ilah, c'est ce qu'on adore, et le tawhid, c'est d'adorer Allah seul. Donc reste à savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration qui doit être vouée à Allah seul. العبادة في اللغة الذل والخضوع يقال بعير معبد أي مذلل وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. Donc العبادة dans la langue arabe, l'adoration, c'est la soumission et l'humiliation, c'est-à-dire être soumis et humilié ou humble. C'est pour ça on dit un chameau معبد, c'est-à-dire ce chameau il est soumis, il obéit. Ou alors on dit طريق معبد, un chemin Mu'abbad, ça vient du même verbe, ça vient du verbe abada, donc d'où est tiré l'ibada, l'adoration. C'est-à-dire, c'est un chemin qui est aplati par les pas qui l'ont piétiné. Donc il a été quelque part soumis et humilié. Donc il est rabaissé. C'est ça le sens de l'ibada, c'est de se soumettre. وَشَرْعًا هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. Et dans la religion, c'est un nom, qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et comme acte, apparent ou caché. C'est-à-dire tous ces actes qu'Allah nous a demandé de faire, ou dont il nous a dit qu'il aimait ou qu'il agréait ces actes de nous. Que ce soit des actes, des paroles ou des croyances, et bien tout ça, ce sont les adorations qu'on doit vouer à Allah seul. Donc en vérité, de ces deux significations, qu'est-ce qu'on comprend? En fait, les deux significations, il n'y a pas de contradiction entre les deux, dans la signification linguistique et la signification religieuse. Puisque quand il dit l'adoration, c'est un nom qui englobe tous les actes et les paroles et les croyances qu'Allah aime et agrée, et bien tout cet ensemble-là, c'est la soumission. C'est-à-dire ce sont des actes de soumission et des actes d'humilité envers Allah et d'obéissance. Après, ça c'est le principe global. L'adoration, c'est ça. Après, chaque acte en détail est un détail et un fruit de cette adoration, ou représente cette adoration. Après, ils disent, وَهِيَ تُبْنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانِ. L'adoration, elle est construite sur trois piliers. الأول, كَمَالُ الْحُبِّ لِلْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Le premier pilier, c'est l'amour complet de l'adoré, c'est-à-dire d'Allah. Comme Allah a dit, ceux qui ont la foi sont plus intenses dans l'amour d'Allah, c'est-à-dire ont un amour d'Allah plus grand, ils aiment Allah plus que tout. Donc l'amour, on va y revenir, l'amour c'est la plus grande des adorations, mais il faut comprendre ce que c'est cet amour qu'on a le droit de vouer qu'à Allah. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer par exemple ses parents ou son épouse ou ses enfants, parce que ce n'est pas le même amour. Là on parle de l'amour qui est une adoration. الثاني كمال الرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته. Le deuxième pilier, c'est l'espoir complet. Comme Allah a dit en parlant des croyants, ils espèrent sa miséricorde. الثالث كمال الخوف من الله سبحانه كما قال تعالى ويخافون عذابه. Et le troisième, c'est la crainte complète. Toujours dans le même verset, en parlant des croyants, Allah dit, ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc l'ibada, elle repose sur ces trois principes. L'amour d'Allah, l'amour de celui que tu adores, en espérant sa récompense et son agrément et sa rencontre, et en craignant sa colère et son châtiment. Et ici, il ramène une faïda en disant que Allah, il a regroupé ces trois piliers dans la Fatiha. Puisqu'il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc quand Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand on dit Alhamd, la louange, c'est-à-dire Al-Thana, quand tu loues quelqu'un en arabe, quand tu fais Alhamd, c'est pas comme Al-Shukr. Al-Shukr, c'est quand tu remercies quelqu'un. C'est-à-dire directement, pourquoi je vous parle du Shukr, ça nous aide à comprendre c'est quoi Alhamd. Le rapport entre les deux nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que Alhamd. Al-Shukr, premièrement, ça peut être une parole, comme ça peut être un acte. Et al-shukr, c'est-à-dire la reconnaissance, se fait envers quelqu'un qui t'a fait une ni'ma. C'est-à-dire, il t'a donné quelque chose, ou il t'a aidé, il t'a fait un bienfait. En récompense, tu lui fais, ou plutôt, en réponse, tu lui fais al-shukr. Al-shukr, ça peut être par la langue, comme si tu lui dis ashkuruka, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Et ça peut être par les actes. Par exemple, tu peux être reconnaissant envers ton père par le fait de lui faire un bisou, par exemple, sur le front. Ou de lui apporter quelque chose qu'il aime bien. Par reconnaissance, parce que lui, il t'a fait quelque chose de bien. Donc ça, c'est shukr, le remerciement. Et quand vous regardez, shukr, c'est que pour quelque chose qu'on te donne ou qu'on te fait. Tu dis pas, je remercie un tel parce qu'il est courageux. Ou alors, je remercie un tel parce qu'il est beau. Ashouk, ça peut être parce que c'est pas pour une qualité que la personne est là, qui ne te touche pas. Alors que l'hamd, c'est à la fois pour ce qu'il te fait comme bien, mais aussi pour les qualités qu'il a. Donc c'est plus complet que shouk. Mais c'est moins complet dans le sens où l'hamd, c'est qu'avec la langue. Tu dis pas, je l'ai hamidtu biyadayya. Je l'ai hamd, entre guillemets, je l'ai loué avec mes deux mains. L'hamd, ce n'est qu'avec la langue. Et bien sûr, ça vient du cœur. On est reconnaissant avec les actes, mais on ne fait pas l'hamd avec les actes. L'hamd, c'est avec la langue. Donc l'hamd, c'est de louer quelqu'un, soit pour le bien qu'il t'a fait, ou soit pour ses qualités qu'il a. Par exemple, parce qu'il est beau, donc tu dis, je vante un tel parce qu'il est beau, parce qu'il est courageux, je le loue parce qu'il est courageux, comme on fait avec les grands hommes, etc. Donc pour revenir, quand on dit Alhamdulillah, la louange d'Allah, quand on dit Alhamdulillah, c'est pas comme si on disait Hamdun Lillah. Si on disait Hamdun Lillah, ça voudrait dire une louange, je dis une louange pour Allah. Mais quand on dit Alhamdulillah, c'est comme si on disait la louange complète, la louange parfaite, et toutes les louanges possibles, elles sont à Allah. Quand on a dit que la louange, elle est en réponse des bienfaits et elle est en réponse des belles qualités de la personne que tu loues, qu'est-ce que ça implique le fait que toutes les louanges et les louanges sont plus parfaites soient à Allah? Qui me répond là? On va répéter. Alhamd, ça se fait en réponse des bienfaits que tu reçois et aussi des qualités de celui dont tu fais l'hamd. Or Allah, on dit Alhamdulillah, c'est-à-dire la louange la plus parfaite. Sachant que la louange, elle est en réponse à des bienfaits et à des qualités. Mais si la louange est en réponse à des bienfaits et à des qualités, et que la louange qu'on dit, c'est la louange la plus parfaite, c'est parce que les qualités de celui qu'on loue sont les qualités les plus parfaites. Et que ces bienfaits sont les bienfaits les plus parfaits et les plus indénombrables. Regardez, c'est ça que ça veut dire quand on dit Alhamdulillah, ça englobe cette signification-là. C'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on dit Alhamdulillah, c'est comme si quelque part tu reconnais tous les noms et les attributs d'Allah. Et qu'Allah, il n'a personne qui lui ressemble, et qu'il est au-dessus de toute ressemblance à cette créature, au-dessus de toute description, et qu'il a les noms et les attributs les plus parfaits. C'est ça que ça implique Alhamdulillah. Et ça implique aussi qu'il a les bienfaits envers nous qui ne se comptent pas. Donc comme Allah il a dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah sont les noms les plus beaux. Et dans un autre verset il dit, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Il a l'exemple le plus haut, c'est-à-dire la description la plus haute. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne les dénombrerez pas. Tout ça c'est compris quand tu dis Alhamdulillah. Donc cette parole qui implique ce descriptif, qu'est-ce qu'elle amène? C'est que tu aimes celui que tu es en train de décrire d'une telle façon. Donc Al-Mahabba, l'amour, il est compris dans Alhamdulillah, puisque tu l'as loué pour ses bienfaits et pour ses qualités. Et forcément celui qui a de tels bienfaits et de telles qualités, eh bien, tu l'aimes de l'amour le plus complet. C'est comme ça que l'amour il est compris dans le verset d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pour traduire entre guillemets le miséricordieux, les noms d'Allah c'est pas des simples noms comme des lettres qui veulent rien dire. C'est des noms, si ils sont husna, c'est-à-dire les meilleurs noms, c'est parce que c'est des noms qui ont les meilleures significations et qui indiquent les meilleures significations. Donc le fait qu'Allah s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim te fait savoir que parmi les attributs d'Allah, il y a Ar-Rahman. Et parmi les actes d'Allah, il y a le fait de faire miséricorde à ses créatures. Et celui qui est de cette sorte, eh bien, tu vas espérer sa Rahman. Espérer qu'il te pardonne. Espérer qu'il accepte ton repentir. Espérer qu'il te fasse entrer au paradis. Tout ça par sa Rahman. Donc l'espoir, il est contenu dans le deuxième verset. Et le plus simple à comprendre, c'est le troisième verset. Maliki Yawmiddin, celui qui possède le jour de la rétribution. Là, c'est évident que ça inspire la peur. Puisque Ad-Din, ça veut dire Al-Jaza, la rétribution pour ce que tu as fait. Ad-Din, ça a deux sens. Il y a Ad-Din qui veut dire la religion. Et Ad-Din, dans le sens comme Yawmuddin, c'est-à-dire Yawmuddjaza. Le jour où, de la rétribution pour ce que tu as fait. Et sachant que l'être humain, il est injuste, ignorant et pécheur, eh ben, le fait de savoir qu'il y aura un jour il sera rétribué, ça lui applique la peur de celui qui va justement le juger. Donc, regardez comment ces trois versets, ça c'est une des sagesses de la Fatiha, eh bien, ils englobent les trois piliers de l'ibada, les trois piliers de l'adoration. On va s'arrêter là, je pense, Inch'Allah. 52 minutes. Bon, on va s'arrêter là et puis on fera, on continuera demain. On fera un dernier cours sur le sujet. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك